Dieu, Créateur du ciel et de la terre et tout ce qui existe, nous te disons merci. Merci pour tous les bienfaits dont nous avons été l'objet, dont nous sommes l'objet à présent et dont nous serons l'objet demain. Merci, Père, pour ton amour que tu as manifesté à la croix de Golgotha. En mourant, tu avais dit que tout était accompli. Alors maintenant, tu nous as donné un chèque en blanc. C'est à nous d'en faire un bon usage, Seigneur Jésus. Père, nous venons d'abord te dire merci. Depuis le matin jusqu'à 7 heures, tu as pris soin de nous, Seigneur. Merci. Merci, Père. Plusieurs sont morts, sont dans des hôpitaux, sont dans des situations, Père, difficiles. Mais tel n'est pas le cas pour nous. Nous sommes présents, nous avons répondu présents par ta grâce, ô mon Dieu, Père, à l'invitation que tu nous as adressée. Et nous sommes autour de ta table, Seigneur. Plusieurs d'entre nous auraient voulu être avec nous ce soir, mais voilà, ils sont empêchés. Et toi seul, tu connais le pourquoi de leur empêchement. Alors pour nous qui sommes là, nous te sommes très reconnaissants, Seigneur. Nous ne sommes pas venus pour acheter, pour vendre ou pour se faire voir, Seigneur. Nous sommes là pour que tu nous parles. Nous sommes là pour que tu nous corriges. Nous sommes là, Père, pour que tu nous bénisses. Nous te faisons confiance, Père éternel. Parce que tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Donc nous sommes dans la joie parce que tu es là, Père éternel. Tu es là au cœur de nos vies. C'est toi qui nous fais vivre, Seigneur. Et nous sommes dans la joie encore ce soir. Père, avant toute chose, pardonne-nous nos offenses, Papa. Que tu puisses nous regarder au travers du sang de ton Fils qui l'a versé à la croix de Golgotha, Père. Sois-nous favorable, Papa. Ce que nous venons de demander et ce que nous n'avons pas demandé, que le Saint-Esprit intercède pour nous, c'est dans le nom béni et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je viens de t'adresser cette modeste prière. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Très heureux d'être de retour ce soir en ce lieu au service du Seigneur, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde se sent heureux d'être encore ici dans un but précis. Écoutez la parole. Alors, mes frères et sœurs, après avoir écouté, je veux que nous ayons une nouvelle apparence, une meilleure compréhension de la parole que lorsque nous sommes entrés en ce lieu. C'est-à-dire, tout simplement, je veux que ce qui s'est passé sur le chemin d'Emmaüs, dans Luc 24, verset 32, puisse se réaliser dans nos cœurs. Ça va? Ah, nos cœurs ne brillaient-ils pas quand il nous parlait et nous expliquait les Écritures? Alléluia! C'est cela que je veux voir encore. Hein? Que lui vous explique les Écritures. Ah! Et quand il vous dira, oh, homme lent à comprendre, mais en sortant, vous aurez au moins compris ce qu'il a voulu te dire. Parce que moi, je n'ai rien à te dire. Hein. Rien du tout, comme j'ai souvent l'habitude de le dire. Nous sommes logés à la même enseigne, n'est-ce pas? Je suis le moindre de tous. Alors le moindre de tous, nous partageons les mêmes faiblesses. Alléluia. Bon voilà, quand j'étudiais à la maison, je me suis dit, ce soir, il faut que je fasse un long rappel. Je vais essayer de retracer la ligne du temps depuis que Paul nous a introduits dans ce sujet qu'on appelle la spiritualité. Nous y sommes tombés, mais en tombant là-dedans, je ne savais pas comment les choses allaient tourner, n'est-ce pas? Paul, lui, quand il arrive à Corinthe, selon sa mission, il a observé, avec tout ce qui s'est passé dans cette église, Paul a vu, il dit, allez, laisse tomber. Laisse tomber. Vous êtes des charnels, et il y a des spirituels. Alors Paul a parlé. C'est pour cela que nous, quand nous avons vu ça, et que Paul avait catégorisé le croyant de Corinthe, nous avions dit, on va essayer un peu de suivre cette affaire de croyants qui sont charnels et de croyants qui sont spirituels. Qu'est-ce que ça voulait bien dire? Alors, Dieu, par sa grâce, nous a accordé une série de prédications sur ce thème qui est la spiritualité. Nous avons commencé d'abord à présenter la place de la spiritualité. C'est là où nous avions vu, mais comment ces gens qui sont dans l'église sont restés enfants, qui ne grandissent pas. Comment? Nous avons vu que bon, il y a des gens qui désirent rester des bébés. Et parfois, c'est aussi la faute de ceux qui enseignent, qui ne les incitent pas à faire de bon en avant. Et nous les avons comparés aux chrétiens qui étaient spirituels. Mais pourquoi cela était spirituel? Nous avions vu que ceux qui étaient spirituels, ils ne faisaient rien, rien, rien. Ils ne marchaient pas selon la chair. Tout ce qui était dans leur pensée, zéro. C'était mort. Il s'est confié à Christ. Et nous avons parlé du secret de la spiritualité. Nous avons vu dans le secret de la spiritualité, je pense, 5 points au niveau de la spiritualité. S'il faut entrer dans cette spiritualité, mon frère, ma sœur, tu dois apprendre à prier et à jeûner. Mon frère, ma sœur, tu dois apprendre à être pur. Mon frère, ma sœur, tu dois apprendre à méditer. Mon frère, ma sœur, tu dois apprendre à pardonner. Mon frère, ma sœur, tu dois apprendre à être persévérant. Il faut persévérer. C'était là le 5 points qu'on avait développé sur la spiritualité. Et est venu après, l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel juge de tout. Pourquoi? Nous avions dit rapidement, parce que celui-ci est connecté. Alléluia. Il ne débranche jamais son chargeur. Alors, il est toujours connecté avec l'esprit. Et comme il est toujours connecté avec l'esprit, il recevra des révélations de la part de l'esprit au moment opportun. Il n'a pas à s'en faire. Au moment opportun, chaque fois qu'il se retrouvera quelque part, le Saint-Esprit lui-même entrera en scène pour pouvoir le guider. Et quand nous avions parlé de l'homme spirituel, juge de tout, est venu ne juger point. Nous avons vu tous les aspects de ne juger point, parce que dans la chrétienté, c'est un verset qui est connu et mal compris. Alléluia. Ne juge point, mais oui, tout là. Oh là 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 là, doucement. Le Seigneur ne te disait pas de juger. Hein? Non. Tout cela a été développé. Et suivi, faites accueil à ceux qui sont faibles dans la foi. Et il disait, ne discutez pas sur les opinions. Alléluia. Il y a des cas qui nous ont été donnés. Sujet de manger, de boire comme vous voulez. Et le deuxième cas, ne discutez pas. Le fait, c'est le jour, tout ce que vous voulez. Alléluia. Donc, toi, tu n'aimes pas les fêtes, ok, il n'y a pas de souci. Tu n'aimes pas les fêtes, on ne va pas te juger pour ça. Toi, tu n'aimes pas boire, oui, c'est vrai, mais la seule chose, tu dois toujours te souvenir que le frère pour qui Christ est mort, que ta liberté, alléluia, que ta liberté ne soit pas une pierre d'achoppement pour ton frère. Parce que c'est quelqu'un qui est faible dans la foi. Et toi qui es spirituel, pour sauver, pour ne pas attrister celui-ci, tu t'abstiens. Alléluia. Tu t'abstiens tout carrément. Et quand nous étions arrivés à ce niveau-là, l'esprit a dit, hey, chef, tu es dans les désordres. La manière dont tu présentes cette situation, elle est désordonnée. Alors, nous étions obligés de revenir pour maintenant faire la lune du temps. Alléluia. Là, nous nous sommes arrêtés. Stop, monsieur. Ta présentation, elle n'est pas bonne. Les contenus ne sont pas mauvais, mais c'est ta présentation qui n'est pas bonne. Alors, nous avons dit, oui, chef, nous devons remonter la lune du temps. Alors, c'est là où Jean-Baptiste devait crier dans le désert, n'est-ce pas? Ah, Jean-Baptiste est venu pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, le cœur de ce peuple, le sol, doit être bien préparé pour pouvoir accueillir la parole de Dieu. Alléluia. Et là, il y avait trois agents qui avaient la capacité d'amener l'homme pécheur à la conversion. Alléluia. Et quand Jean-Baptiste avait fait ce travail, c'est-à-dire poser le fondement pour que le premier acte de la chrétienté soit réalisé. Jean-Baptiste l'a fait. Et quand Jean-Baptiste l'a fait, cela voudrait dire que nous avons une fondation. Quand la fondation est là, tu deviens en ce moment-là un chantier en construction. Alléluia. Un chantier en construction. Quand nous quittons les chantiers en construction, tu dois croître. Alléluia. Tu dois croître pour le salut selon 1 Pierre 2, verset 2. Et comme la croissance est une nécessité de la nature, tu ne peux pas esquiver. Tu dois croître comme la graine qui est plantée. Alléluia. Aura besoin de la lumière, hein, de l'eau, gaz carbonique, et 3-4 les sels minéraux pour que sa croissance puisse être observée tout comme toi. Tu dois être dans des conditions qui vont te permettre de croître dans le Seigneur.
Amen.
Mais tu dois être dans un contexte bien défini.
Amen.
Pas n'importe où, pas n'importe comment. Alléluia.
Amen.
C'est vrai, tu me sers la nourriture elle est bonne, mais quand l'assiette est sale, franchement, je vais me réserver.
Ah, c'est vrai.
Ta nourriture, elle est bien préparée, mais attends. Ton assiette, quand je la regarde, je dirais merci ma soeur. Hein, t'as pas faim? Non, j'ai déjà mangé. Tu dois être dans des conditions vraiment pour que tu puisses croître pour le salut.
Amen.
Et le Seigneur, en ce moment-là, quand tu entames cette croissance, il déclare l'œuvre commencée sera achevée selon Philippiens 1, verset 6, n'est-ce pas? Et nous avons relevé trois mythes. Attention, trois mythes auxquels nous devons être attentifs dans notre développement spirituel. Tu ne vas pas croître comme ça par osmose, non. Il est strictement interdit de te croiser le bras.
Amen.
Ah oui, tu dois travailler pour cela. Et enfin, puisque cette graine doit croître, on aura un plan. Après, le plan, on aura une plante qui va commencer à pousser, qui va affronter le vent, l'intempérie. Paul vient nous dire, mais vous savez, on va quand même, le lait spirituel est bon pour le nouveau-né, n'est-ce pas? Mais pour l'ado, en tout cas, il n'aura plus besoin de lait maternel. Il faut commencer à donner la nourriture solide. Et c'est pour cela. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Alléluia.
Amen.
Ou encore, Noah?
Je parlais
comme un enfant. Et puis, j'ai raisonné comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. C'est toi qui le fais. On se suit?
Amen.
C'est toi qui le fais. Donc ce combat-là, personne ne viendra t'aider. C'est toi qui le fais, c'est toi qui vas faire disparaître ce qui est de l'enfant dans ta marche spirituelle. Alléluia.
Amen.
Ah, personne, c'est toi. Puisque nous avons vu Paul est clair, j'ai fait disparaître.
Amen.
Il ne dit pas que non, on m'a aidé pour... Non, j'ai fait, moi.
Amen.
Donc toi, tu es censé faire disparaître tout ce qui est de l'enfant dans ta marche.
Amen.
Et on va observer dans la manière dont tu entres en relation avec les autres. Si à chaque abord, il y a des murmures, comme il y a des gens qui boudent. Quand on dit bonjour, on boude, on regarde le plafond. Oh, mais tends-moi la main, je viens vers toi, tends-moi la main. On boude. Et là, on doit voir du point de vue émotionnel une certaine maturité. On doit voir du point de vue financier que tu es mature. Tu ne dilapides pas de sous n'importe comment. Mais on ne te dit pas aussi d'être flamboyant, comptable. Toujours faire le bilan. Non. Trop de prudence aussi, c'est mauvais. Alléluia.
Amen.
Mais on doit arriver à observer une certaine maturité dans ta gestion financière. Alléluia. Et là, quand 1 Corinthiens 13, 8, 11 et Ephésiens 4 nous a dit l'état de l'homme fait, on a parcouru les éléments qui font que nous pouvons dire, en observant, que ce monsieur est mature, que ce monsieur est encore enfant. Alors là, en ce moment-là, tu vois que tes 60 ans d'âge de l'état civil ne veulent rien dire, n'est-ce pas? Tu es encore enfant. Et ça serait quand même un peu curieux qu'on puisse toujours te dire, mais quand même, frère, il faut grandir. Hein? Il faut grandir. Et c'est vers ça que nous devons tendre. Faire disparaître, alléluia, en nous, ce qui est de l'enfant. Alors, le mercredi passé, justement, toujours dans le cadre de la spiritualité, on nous a dit en temps et pratique. Alléluia. En temps et pratique. Tu as deux choix. Alléluia. Deux choix pour construire. il y a le roc ou le sable. Toi, de faire ce choix. Le roc, c'est le Seigneur. Le sable, c'est l'enseignement des pharisiens, leur justice, que tout le monde, autrefois, suivait. Et on nous a dit, l'homme prudent entend la parole et la met en pratique. Il construit sa maison sur le roc. Et quand les intempéries viennent, sa maison ne bouge pas. Alléluia. Par contre, l'insensé, le fou, entend la parole, ne la pratique pas, va construire sa maison sur le sable. Et quand les intempéries viennent, chute totale. Alors maintenant, mon frère, ma soeur, ce soir, tu vois un peu le chemin parcouru? Ce n'est pas pour le plaisir d'entendre, entendre. Mais le Seigneur insiste sur la mise en pratique de ce que tu écoutes. Oui, oui, on a parlé de la spiritualité, oui, mais oui, il y a tout un schéma. Et dans la spiritualité, il y a des actes que tu dois poser. Faire disparaître ce qui est de l'enfant. C'est ça le travail. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est ça le travail. Nous devons faire disparaître dans notre masse chrétienne ce qui est de l'enfant. Alors l'Esprit reviendra pour marteler jusqu'à sec. Alléluia. Alors ce soir, je vous invite à vous lever. C'était nécessaire que je puisse vous rafraîchir un peu la mémoire, n'est-ce pas? Ah! Alors quand on dit de pratiquer, c'est-à-dire faire disparaître dans notre vie chrétienne ce qui est de l'enfant. C'est un travail que tu dois faire en écoutant tous les sujets que l'Esprit mène. Ça a toujours un objectif pour que tu puisses arriver à faire disparaître dans ta vie chrétienne ce qui est de l'enfant. Alléluia. C'est comme cela que nous aurons une chaudière ici. C'est comme cela que nous aurons une chaudière dans cette assemblée. Quand tout le monde va se mettre au travail pour faire disparaître ce qui est de l'enfant en lui, ça sera chaud, hein. Ça sera chaud. Alors, avec tout. Quand tout ça sera disparu, boss, hein, tu auras même peur de venir ici n'importe comment. Parce qu'en ce moment-là, Dieu va commencer à mettre entre vos mains tous les dons. Ah oui. Ah oui. Ce sont des réalités. C'est comme ça. Quand vous allez observer les critères de la spiritualité et que vous faites ce travail de faire disparaître dans vos vies tout ce qui est de l'enfant, mais quoi d'autre? Puis si tu deviens mature, tu es capable de discerner ce qui est bon. Hein? Tu es capable d'utiliser la parole de la justice pour discerner ce qui est bon et mauvais. Alléluia. Oh. Nous allons lire dans trois passages ce soir. Le premier passage, nous le retrouverons dans l'évangile de Jean. Verset 10. Et les deux autres passages sont dans les psaumes. Mettez la main dans Jean 10, verset 10. Et vous prenez les psaumes 71. Versets 10 à 13. Je vous laisse le temps d'écrire. Et les versets, le psaume 118. Psaume 118, verset 13. Tout le monde y est? Ou bien je répète, Jean 10, 10, psaume 71, à partir du verset 10, verset jusqu'au verset 13, psaume 118, le verset 13. Alors on commence avec Jean 10, verset 10. Lisons. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Allez. Psaume 118, verset 13. Bon, psaume 118, verset 13. Lisons. Tu m'es poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Ah. Imprégnez-vous de ce passage, calmement. Et le psaume 71, verset 10 jusqu'au verset 13. Lisons. Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant, Dieu l'abandonne. Poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens à hâte, à mon secours. Qu'il soit confus, anéanti, ceux qui en veulent à ma vie, qu'il soit couvert de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen.
Amen.
Ok, asseyez-vous, mes frères et sœurs. Ces trois textes vont nous donner les contextes dans lesquels je désire parler ce soir. Ce soir, toujours dans la série des prédications sur la spiritualité, nous voudrions maintenant ajouter un autre élément. Puisque quand nous entendons, nous écoutons, et que Dieu nous accorde la grâce de travailler sur nous-mêmes, c'est-à-dire faire disparaître dans nos vies ce qui est de l'enfant. Alors, nous allons considérer un peu le psaume 118. Je pense que c'est dans ce contexte du psaume 118 que nous allons trouver le sujet dont nous allons parler ce soir. Alors, dans le psaume 118, nous avons lu le verset 13, mais je voudrais qu'on remonte au verset 10 jusqu'au verset 13. Le psaume 118. Verset 10 jusqu'au verset 13. Je suis en train de lire. Nous lisons. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, suivez bien, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Nous allons tirer le sujet de ce soir à partir du verset 13. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Donc ici, nous pouvons déjà imaginer qu'il y a un projet. Alléluia. Un projet de quelqu'un pour ma perte. Alléluia.
Amen.
Il me pousse pour que je puisse disparaître. Alléluia.
Amen.
Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais l'Éternel m'a secouru. Donc le sujet de ce soir, je l'intitule « Tenir le projet de Satan en échec ». Alléluia. C'est le verset 13 qui nous donne ça. Hein. Ça va?
Amen.
Tenir le projet de Satan en échec. Donc toi, si tu es un as baissé de disciple, pas chrétien tout court, mais disciple accompli, sache que quand tu travailles pour faire disparaître ce qui est de l'enfant dans ta vie, tu auras devant toi quelqu'un avec un projet. Jean 10, 10, quel est son projet?
Détruire.
Ah! Il a un projet bien défini. Alléluia! Égorger, détruire, et puis?
Dérober.
Hein? Il y a quatre.
Dérober.
Oui.
Égorger.
Oui.
Et détruire.
Oui. Il y a quatre chefs. Moi, j'ai lu à la maison, j'ai trouvé quatre actions.
Le voleur ne vient que pour dérober.
Oui, un.
Égorger.
Oui, deux.
Et détruire.
Oui, trois.
Moi, je suis venu.
C'est tout?
Il y a trois.
OK. Donc, le projet de Satan est bien défini. Alléluia. Lui, il ne vient pas pour te caresser, beau sein, t'as des beaux yeux. Non. Lui, t'égorger, te détruire, dérober. Alors, comment tu vas t'en sortir dans cette affaire? Tu vois? Donc, il faut acquérir le statut d'un disciple accompli ou HB. C'est de je veille. Je veille. Je ne dors pas. Je travaille. Quand lui veut me maintenir dans le statu quo de l'enfance, tu dis non. Laisse-moi.
Amen.
Moi maintenant j'ai des dents. Je veux la viande.
Amen.
Plus de purée.
Amen.
Alléluia. Je veux la viande. Oh, c'est quoi ça? Reste assis. Non.
Amen.
Je dois marcher. Amen. Non. Marche à quatre. Non. Plus quatre pattes.
Amen.
Je dois utiliser mes deux pieds pour marcher.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Il ne faut pas que Satan arrive à t'infantiliser à tout moment. Et puis, tu es là dans tes jérémiades à tout moment. Un mois. Non.
Amen.
Voilà, ce soir, tu es obligé de tenir le projet de Satan en échec.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Hein? Tenir le projet de Satan en échec. Ça, c'est ton job.
Amen.
Oui. Dormir 24 heures sur 24 comme nous les pensionnés. C'est quoi ça comme histoire? Nous avons travaillé. Maintenant, nous nous reposons.
Oui.
Faut pas vouloir se ressembler aux pensionnés. Non. Mais vous êtes actifs. Il faut charbonner.
Amen.
Vous devez charbonner.
Amen.
Sinon, alors, c'est quoi? Tu sais, il dit ici, hein. Il dit, tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru.
Amen.
Et ça, c'est une réalité, hein. Abel, dors pas, hein. Pas de philosophie ici, hein. C'est la réalité. C'est la réalité ici. On ne vend pas du vent, mais c'est la réalité. Pas le marketing. Ça, c'est la réalité. Il me poussait, il me poussait. Lui, son projet est bien défini. Égorger, détruire et dérober.
C'est clair.
Qu'est-ce que tu crois, toi? Qu'est-ce que tu crois? Alors, tenir en échec, comme nous n'aimons pas d'approximation dans notre expression, nous avons quand même fait le travail d'aller voir un peu.
Amen.
Quand on parle de tenir en échec, qu'est-ce que cela veut dire pour que nous ayons la même image? Tenir en échec. L'expression tenir en échec peut être utilisée pour décrire la capacité à contrer ou empêcher quelqu'un ou quelque chose d'atteindre ses objectifs.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Tu me poussais pour me faire tomber, mais Satan n'a pas réussi cet objectif. Pourquoi? Dieu m'a secouru.
Alléluia.
Alléluia. Donc, ses objectifs sont anéantis.
Amen.
Très bien. Cela implique souvent d'adopter des stratégies ou des actions qui entravent le succès ou le progrès d'une situation. Donc, tu le vois venir. Ah oui, tu l'as vu venir. Oui, alors après quoi? Tu es tombé. Comment tu es tombé? C'est que tu ne l'as pas vu venir. Quand tu le vois venir, tu dois définir des stratégies pour qu'il ne puisse pas atteindre ses objectifs. Mais s'il atteint facilement ses objectifs, c'est que quelque part, tu l'aides à atteindre ses objectifs.
C'est vrai. Amen, amen.
Tu ne fais pas ton job. Alors, pour notre sujet de ce soir, on ne tient pas Satan en échec en étant religieux. Non. Tu ne vas pas tenir Satan en échec en étant religieux. C'est-à-dire, je suis au culte chaque mercredi, vendredi, et dimanche. Je chante à la chorale. Je prêche. Hé, papa, maman, Satan s'en fout. Il s'en fout. D'ailleurs, comme il sait que pour toi, bon, c'est la forme qui compte, hein, et que ton cœur est en déchéance. C'est seulement la forme qui reste. Hein. Chaque dimanche, en tout cas, il va te réveiller.
C'est bien dit.
Chaque dimanche, il va te réveiller. Allez, hey, fais vite. Fais vite. Tu es même devant la porte. Les diacres ne sont pas encore là, au frère Bernard. Tu es là. Mais ton cœur est en déchéance. Et ça, il le sait.
Oui, très bien.
Et quand tu vas t'asseoir ici, tu sais, ta ristourne là, maman Likelemba, ristourne, hein, c'est Likelemba. Donc la maman de, qui conduit cette ristourne risque de te jouer. Donc toute la prédication, tu es dans la ristourne. Mais tu as été ici. Alléluia. Tu as été ici et tu sors avec rien. Alors, ce n'est pas comme ça que tu vas tenir Satan en échec. Alléluia.
Amen.
Satan s'en fout. Tu dois progresser.
Oui.
Alléluia. C'est-à-dire quitter l'état religieux.
Amen.
Pour devenir spirituel selon Acte 1, verset 8. Lui.
Mais vous recevrez une puissance.
Mm-hmm.
Le Saint-Esprit survenant sur vous.
Oui.
Et vous serez mes témoins.
Oui.
À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Ok. Mon frère, ma sœur, il faut progresser jusqu'à ce niveau-là. Alléluia. Alors, quand tu arrives à ce niveau-là, question. Est-ce que pour toi, le Saint-Esprit reste tout simplement une expérience physique? Oui, j'ai. Acte 8, j'ai. Ça s'arrête là. Quelle relation as-tu avec le Saint-Esprit? Est-ce que as-tu une communion avec le Saint-Esprit? C'est très important. C'est comme dans les relations humaines. Alléluia. C'est comme dans les relations humaines. Là, je veux parler, par exemple, de couple. Hein? La femme aime être accueillie. La femme aime être reconnue dans ce qu'elle est. La femme aime être aimée. Et la femme aime être acceptée. Alléluia. Alors, si toi, tu prends seulement le Saint-Esprit comme une simple expérience physique, tu te trompes. Il faut prendre le Saint-Esprit comme une personne. Alléluia. Puisque la Bible dit le consolateur, l'esprit de vérité, quand tu as fait l'expérience de Acte 1, verset 8, maintenant il faut progresser au niveau relationnel avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut le traiter comme une personne. Le Saint-Esprit aime être accueilli. Le Saint-Esprit aime être accepté. Le Saint-Esprit aime être reconnu. Alléluia. Amen. Et c'est comme cela que il peut venir chez toi. Un homme qui ne reconnaît jamais sa femme. Un homme qui ne fait jamais de compliments à sa femme. Un homme qui se perd chaque fois dans des disputes avec sa femme. Est-ce que cette femme sera à l'aise?
Non.
C'est aussi ça la condition du Saint-Esprit dans la vie d'un HBC2. Alléluia. Le Saint-Esprit doit se sentir accueilli. Alléluia. Le Saint-Esprit doit se sentir reconnu. Et toi, tu sais ce que le Saint-Esprit aime et ce qu'il n'aime pas. Il te dit, faites disparaître tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Alléluia. Toutes ces attitudes-là, il faut les faire disparaître. On est d'accord? Tu dois apprendre à avoir une communion profonde avec lui. Il aime cela. Donc, si tu ne le savais pas, depuis tout ce temps, tu dois imaginer la relation qui existe entre un homme et une femme. Et c'est comme cela aussi, quand tu as fait cette expérience, tu vas te comporter avec le Saint-Esprit. Il faut l'aimer, il faut l'accueillir, il faut l'accepter, il faut le reconnaître. Alléluia. Alors ta relation avec le Saint-Esprit doit être bien définie, comme tu as bien défini les relations avec ta femme, avec ton mari. Alléluia. Pour que tu sois un instrument entre ses mains, il faut que la relation soit bien définie. Alléluia. Progressons. Prenons maintenant, retournons au psaume 118 qui nous a donné le titre de la prédication. Noah.
Oui.
Et je veux que ceux qui écoutent puissent écouter parce qu'il y a une question qui sortira après. Psaume 118, versets 10 et 13.
Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Mm-hmm. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Mm. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine.
Oui.
Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Mm. Tu me poussais pour me faire tomber.
Ok. Gentiment, je veux poser cette question à mon ami Abel. Il y a une répétition de quelque chose dans ces trois versets. Tu peux le relever?
Au nom de l'Éternel, je détaille en pièces.
Ok. Il y en a combien de fois? Voilà. Donc ici, le psalmiste décrit comment l'Éternel lui a donné confiance au milieu de ses ennemis, environné d'ennemis qui essayaient de le détruire, il a pu triompher. Et voilà, il y a un refrain que nous remarquons qui revient à trois reprises entre le verset 10 et le verset 12. Ok, il dit, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Donc, en toute chose, l'Éternel l'a secouru. Alléluia.
Amen.
Et si nous remontons au verset 7 du chapitre du psaume 118, qu'est-ce qu'il est écrit?
L'Éternel est mon secours.
Voilà. L'Éternel est mon secours. Tenir le projet de Satan en échec. Lorsque nous prenons le psaume 118 et que nous considérons le verset 13, il dit, on m'a poussé, hein? C'est ça qui est écrit, hein? On m'a poussé, on m'a bousculé. Pour faire quoi? Pour m'abattre. Mais le Seigneur m'a défendu. Le Seigneur m'a secouru. Qui t'a poursuivi? Qui t'a poursuivi? Qui t'a poussé? Voyez-vous? Qui t'a poursuivi? Qui t'a poussé? Quand nous lisons entre les lignes, nous savons que c'est l'ennemi avec son projet de m'égorger, de me détruire, alléluia, de dérober. Donc c'est Satan avec son projet précis de Jean 10, verset 10. Alors ce soir, mon frère et ma sœur, si tu es encore debout, c'est que Satan a échoué. Alléluia. C'est que Satan a échoué. Il n'est donc pas content parce que tu es debout. Il t'a tendu autant de pièges. Hein? Hein? Il n'est pas content. Il est en colère, mais on s'en fout. Alléluia. Nous sommes contents. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a secouru. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a défendus. Il y a parfois quand nous marchons, on ne comprend pas des situations qui se déroulent devant nous. Mais tu te dis, waouh, merci Seigneur. Tu n'as même pas pensé à ça. Dimanche passé, après la prédication, j'entre dans la voiture, dans la grande avenue. Mais attends. Monsieur, cette personne qui ouvre sa portière, je ne sais pas comment j'ai évité sans cogner de l'autre côté et je suis resté droit. J'ai dit, merci Seigneur. Alors, j'étais traversé par une chaleur comme ça. Je me suis dit, waouh, quelle affaire! Ah oui, puisque lui, il était en stationnement. Donc, je devais être pratiquement en tort. Il ouvre la portière, du coup, la voiture se décale. Je ne suis pas allé de l'autre côté, mais je suis resté droit.
Oui.
Je me suis dit, waouh, il a échoué. Il a échoué parce que, bon, ce qui s'est passé ici le dimanche, il n'était pas content. Il a dit, mais toi là, Moi, les épreuves, moi, je vais les attrister avec les épreuves. Et toi, tu viens leur dire que non. Regardez comme c'est des gens comprennent les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Qu'est-ce que tu... Alors que moi, je suis habitué à les affliger. Hein? Lui, il n'était pas content. Nous continuons. Donc, il a échoué. Le Seigneur nous a secourus. Mon frère, ma soeur, écoute-moi attentivement. Toute action que Dieu pose pour toi, c'est contre le plan de Satan. Alléluia. Toute action que Dieu va poser pour toi, tu dois savoir, c'est contre le projet de Satan. Romains 8, Noé, versets 5 à 8.
Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit.
Oui.
Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.
OK.
Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu.
Voilà. Et puis?
Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu.
Oui.
Et qu'elle ne le peut même pas.
OK. Donc, nous pouvons dire que la chair et l'esprit qui habitent en nous sont en conflit. Alléluia. Selon Noé, Galates 5, 17.
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux.
Voilà. Donc, il y a une tension. Il y a une pression entre les deux camps. Alléluia. Mais malgré que la chair et l'esprit qui habitent en nous sont en conflit, il y a quand même des gens qui font échouer le projet de Satan. Amen. Alléluia. Amen. Malgré cette tension, malgré cette opposition, alors ceux qui travaillent pour faire disparaître
amen, amen.
Ce qui est de l'enfant amen. Dans leur vie, amen. Ils ont l'obligation de tenir le projet de Satan en échec malgré amen. Cette opposition.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Vos parents toujours venir dire, ah mais oui frère, vous savez que la chair est faible, hein? La chair est faible, hein? Oh, la chair est faible, pourquoi? Tu es tombé? Ah mais oui, le juste est tombé combien? Cette fois? Et le Seigneur l'en délivre toujours. Et pour justifier ta faiblesse, pour justifier ton chômage. Hein? Pour justifier ton chômage.
Oui.
Il y a cette opposition. Donc, il y a une pression. Il y a donc un antagonisme déclaré.
Oui.
Mais malgré cela, il y a des gens
oui.
sur cette terre
Alléluia.
Qui font échouer
Amen.
Le projet de Satan
Amen.
Dans leur vie parce que ce sont des HBC2.
Amen.
Oui, ils veillent.
Alléluia.
Ce ne sont pas des dormeurs. Ce ne sont pas des paresseux.
Amen.
Ce ne sont pas des faiblards.
Amen.
Alors, comme je l'avais dit le dimanche, quand on a terminé la prédication, j'avais dit, nous dans l'épreuve de notre foi, nous devons avoir l'attitude de Job.
Oui.
Et j'avais promis qu'on allait exploiter l'expérience de Job dans l'épreuve de sa foi. Alors, nous allons appeler ce soir à la barre Job pour qu'il puisse nous témoigner comment il a pu.
Il doute un homme qui s'appelait Job Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Il se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils s'invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour eux, chacun d'eux, un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir.
Alléluia!
Amen!
Vous voyez ça?
Oui.
Donc Job, dès le premier verset, on nous donne le caractère de Job. Ok? Il était intègre. Hein? C'était un monsieur qui était intègre. C'est-à-dire, sans tâche morale ou irréprochable. Deuxième caractère, il était droit. Donc, il ne s'écartait pas des critères de Dieu. Droit, on nous dit qu'il craignait Dieu. C'est-à-dire qu'il était conscient de l'existence de Dieu, le révérait et se soumettait à sa majesté. Le quatrième caractère de Job, on nous dit qu'il se détournait du mal, rejetant tout ce qui était contraire au caractère de Dieu. Ça, c'est Job. Vous voyez? Ça, c'est le portrait de Job. Bon, je ne veux pas te dire maintenant que tu deviennes comme Job, mais il faut aspirer à ça.
Amen.
Alléluia. Ça, c'est le témoignage de la Bible, mon frère. Caractère, mais à part ça, au-delà de son caractère, nous avons d'autres faits sur lui. Job 29, versets 7 à 11.
Si je sortais pour aller à la porte de la ville.
Oui.
Et si je me faisais préparer un siège dans la place.
Oui.
Les jeunes gens se retiraient à mon approche.
Oui.
Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche.
Oui.
La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais.
Oui.
L'oreille qui m'entendait me disait heureux.
Oui.
L'œil qui me voyait me rendait témoignage.
Ok, donc nous voyons qu'il était un homme hautement respecté.
Oui.
Alléluia.
Amen.
Hautement respecté.
Amen.
Verset 12 à 17.
Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi.
Amen.
Je remplissais de joie le cœur de la veuve.
Oui.
Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. 15. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu.
Oui.
Je brisais la mâchoire de l'injuste. Et j'arrachais de ses dents la proie.
Donc ici nous voyons que Job était juste, honnête et miséricordieux.
Amen.
N'est-ce pas? Puisque le temps avance. Et quand nous allons au verset 29, verset 24, nous voyons que Job était un conseiller plein de sagesse. Et quand nous continuons au chapitre 31, verset 16 à 21 et 32, nous voyons que Job était un homme hospitalier et généreux. Alléluia.
Amen.
Tout ça, c'est le personnage de Job. Alléluia.
Amen.
Alors, les malheurs vont s'abattre sur Job. Dieu va permettre la mise à l'épreuve de Job. À partir du verset 6 jusqu'à 22, on ne va pas lire, le temps est avancé. À partir du verset 6 jusqu'au verset 22, on nous raconte la disparition de bien de Job, de ses enfants et de presque tous ses serviteurs. Verset 8 et 11, lis les versets 8 et 11.
Chapitre 31.
Non. Nous retournons au chapitre 1.
8.
Oui, et 11.
L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? »
Waouh !
« Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais dans ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. »
Ok, voyez-vous ? Donc Dieu, puisque Job, c'est un HBC2. Alléluia. Donc Dieu prend le plaisir de vanter son disciple accompli. Alléluia.
Amen.
Alors, et la réponse de Satan, il va prétendre que si Dieu cessait de le protéger et ôtait tout ce qui était à lui, alors Job le maudirait. Voyez-vous? Job le maudirait. C'est toujours dans son projet, Jean 10, verset 10. Tu vois, hein? Toujours des idées un peu perverses. L'accusateur. Alors lui, il dit, essaie seulement de lui ôter tout ce qui est à lui. Tu verras, Job va te maudire en face. Donc c'est, selon Satan, c'est pour dire que Job adorait Dieu pour des raisons égoïstes. Ça c'est Satan, donc ça c'est l'argument de Satan pour dire à Dieu. Alors, quand nous voyons au verset 12 jusqu'au verset 19, les malheurs vont s'abattre sur Job. Alléluia. Les malheurs vont s'abattre sur Job. Et quand tous ces malheurs se sont abattus sur Job, mon frère, ma sœur, regardons la réaction de Job, versets 20 à 22.
Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté.
Oui.
Que le nom de l'Éternel soit béni. »
Oui.
En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu.
Tu as entendu?
Amen.
Tu as entendu? Donc, l'attitude de Job va faire échouer le projet de Satan. Alléluia. Donc, mon frère, ma sœur, apprends à bien parler dans le bon et dans le mauvais jour. Alléluia. Apprends à bien parler. L'épreuve n'est pas une calamité. L'épreuve n'est pas une punition. L'épreuve n'est pas une malédiction. Mais l'épreuve, c'est un examen pour voir jusqu'où tu es allé par rapport au programme qui est donné.
Amen.
Alléluia.
Oui.
Toi, tu es ici à l'Assemblée, mon frère, ma sœur. Des gens qui ne connaissent pas Dieu savent entrer en contact ou entrer en relation avec les autres. Mais toi, ta sœur, ton frère qui est là, tu le regardes de haut, tu le dévisages. Tu ne sais même pas parler à ton frère. Tu ne sais même pas parler à ta sœur. Mais il y a des gens de l'extérieur, malgré leur situation, ils savent parler aux gens. Ils agissent mieux que toi. Tu regardes ton voisin comme moins que rien. Mais nous observons ici, Job a fait échouer le plan de Satan. Job, dans l'adversité et le malheur, il a adoré Dieu.
Amen.
Il ne céda pas à l'amertume et refusa de reprocher Dieu. Cela me pousse à dire qu'en réalité, on peut aimer Dieu de façon désintéressée. Quand on a parlé ici de la marque d'identité, en terminant, j'ai posé la question. Oh, dis, chef, pourquoi tu aimes Dieu? J'ai posé cette question, n'est-ce pas? Pourquoi tu aimes Dieu? Pour ce qu'il te donne ou pour ce qu'il est? Ou parce que c'est un distributeur automatique gratuit? Ah! Donc, quand nous voyons Job, hein, on peut aimer Dieu de façon désintéressée. On peut lui être fidèle sans espérer obtenir un avantage.
Amen.
Hein? L'adoration de Job au moment où il perd tout confirme les paroles de Dieu concernant le caractère spirituel de Job, n'est-ce pas?
Amen.
Alors, dans le message « Soyons certains de Dieu » à la page 12 et 13, paragraphe 50, 57 à 59, nous pouvons lire ceci concernant Job. Le messager dit ceci. Il n'y a eu Job dans l'Ancien Testament que Satan, notre accusateur, a accusé d'être un pécheur secret. Mais Job savait qu'il n'avait pas péché. Il savait qu'il avait confessé tout ce qu'il avait fait et qu'il avait offert son holocauste. C'était là l'exigence de Dieu. C'était tout ce que Dieu exigeait, un holocauste et une confession. Et cela, Job l'avait fait. Et Satan dit, je prendrai ses chameaux, car il est riche. Je prendrai ses brebis. Et en dernier lieu, il prit ce qui était le plus près du cœur de Job, ses enfants. Job demeura néanmoins inflexible, car il savait que Dieu, il était certain qu'il était Dieu, car il lui avait parlé et il avait satisfait ses exigences. Il passa tout au peigne fin et conclut, j'ai offert tous les holocaustes voulus. Je me suis dit, peut-être que lors d'un festin donné par mes fils, auquel mes filles auraient assisté, peut-être ont-ils péché en secret dans leur cœur. Je vais donc offrir un holocauste pour eux et confesser leur tort. Oh Dieu, quand un homme est fidèle à ce que Dieu lui a dicté et qu'il est certain qu'il est Dieu, celui-ci doit répondre.
Amen.
Alléluia. La foi déclenche chaque fois son entrée en scène.
Amen.
Ça, c'était la première épreuve de Job. Il y aura au chapitre 2, la deuxième épreuve de Job, là où Satan va toucher sa chair. Hein? Job aura des ulcères partout. Alléluia. Chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Mais au verset 5, tu peux lire le verset 5.
Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face.
Ce n'est pas la première fois qu'il parle comme ça, n'est-ce pas? Ôte tout ce qu'il a. Maintenant, il propose à Dieu de toucher son corps. Aussitôt, Satan frappa Job d'un ulcère malin sur tout son corps. Alléluia. Mais voyons la réaction de Job. 9, 10, verset 9, 10.
Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui dit, tu parles comme une femme insensée.
Mm-hmm.
Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal.
Mm-hmm.
En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres.
Alléluia. Nous voyons ici la réaction de Job à la deuxième mise à l'épreuve. Sa réaction a fait échouer le projet de Satan, n'est-ce pas? Quand sa femme lui conseille d'oublier son intégrité et de maudire Dieu afin d'en finir. Et Job va traiter sa femme d'insensée. Donc, ce conseil de maudire Dieu était exactement ce que Satan avait prédit à deux fois concernant Job. Genèse 1, 11 et Genèse 2, 5. Mais faisant preuve d'une confiance sereine en Dieu, Job demanda à sa femme, verset 10, Benoît, « Si nous recevons de Dieu le bien, nous ne recevons pas aussi le mal. » Donc, le plan de Satan a échoué. Alléluia. Cela montre que Satan avait tout faux en prédisant que Job maudirait Dieu et que Dieu avait raison. Alors, mon frère, ma sœur, dans l'adversité, dans les calamités, comment tu te comportes? Comment tu te comportes, mon frère, ma sœur? C'est le moment de prononcer tous les noms d'oiseaux vers ton entourage, vers Dieu. Moi, je ne m'aime pas. Ah, je suis venu accompagner les autres. Ça fait 20 ans que j'ai pris. Je lui ai demandé ceci. Et mon frère, ma sœur, attends ton qui? Attends en silence ton Isaac. Si tu veux précipiter, tu auras Ismaël.
Oui.
Mais Ismaël, il y aura des troubles.
Oui.
Aïe, aïe, aïe. Attends, attends dans le calme ton Isaac. Isaac viendra, puisque Dieu l'a dit. Sois certain de Dieu. Ah! En voulant aider Dieu, mon frère, tu auras Ismaël. Ismaël t'apportera des troubles. Ah, si je savais. Ah, tu t'es comporté en bandit. Tu t'es comporté en gangster. Croyant que Dieu s'est trompé. C'était Agar. Et pas Sarah. Attends dans le silence ton Isaac.
Alléluia.
Mon frère, ma soeur, je te conseille, attends dans le calme ton Isaac.
Amen.
Parce que Ismaël va t'apporter des soucis. Tu peux dire, mais moi, tu ne vois pas comment je suis. Hein? Je suis la délaissée. Tu ne vois pas. Hein? Est-ce que tu... Oh. Attends, Dieu contrôle tout. Dieu contrôle tout. Dans l'état où tu te trouves, mon frère, ma soeur, mais Dieu contrôle tout. Hein? Et je voudrais te poser une question. Hein? Donne-moi encore 5 minutes. Est-ce que quand Adam et Ève ont commis leur forfait, Dieu était choqué? Est-ce que Dieu était surpris? Et alors? Il n'a jamais été choqué, ni... être surpris.
Amen.
Il a tout le plan devant lui.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Il contrôle la manette. Tout devant lui.
Amen.
Alors, il ne faut pas te comporter comme un enfant. Deviens un homme fait.
Amen.
Alléluia. Amen. N'attribue pas à Dieu des noms, des ceci, des qualifications. Non. D'où l'importance de te familiariser avec les secrets de la spiritualité. Tu as vraiment besoin de ça. Le temps est passé. Il y a aussi d'autres témoins que nous pouvons citer dans Daniel 3, versets 16 et 26. Il s'agit de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont aussi anéanti le plan de Satan. Ils sont restés attachés au Seigneur malgré les menaces. Ils n'ont pas adoré la statue d'or élevée par le roi, n'est-ce pas? Donc, ils ont fait échouer le projet de Satan. Alléluia. Pour terminer, mon frère, ma sœur, n'attribue rien d'indigne à Dieu, malgré ta situation. Je te supplie. Alléluia. Je te supplie. N'attribue rien d'indigne à Dieu, malgré ta situation. Tu dois toujours faire attention de tomber dans les pièges de Satan, l'accusateur. N'oublie pas aussi que le pire de tes problèmes ne sont que des occasions pour Dieu afin qu'il démontre sa toute puissance. Et c'est pour cela, pour terminer, je te dis, sois certain de Dieu. Alléluia. Boss, sois certain de Dieu. Pas blablabla. Non, sois certain de Dieu dans les faits. Sois certain de Dieu parce que tu es là comme un agent de Dieu pour faire échouer le projet de Satan dans ta vie. Alléluia.
Amen.
Parce que tu es mature. Nous sommes toujours dans la série de la spiritualité. Un homme mature est censé faire échouer le projet de Satan dans sa vie. Alléluia.
Amen.
Que Dieu vous bénisse.
Amen.
Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir encore entretenus ce soir. Nous sommes très contents pour cela. Maintenant que tu nous accordes la force, ô mon Dieu, pour pouvoir pratiquer ce que nous venons d'écouter. C'est cela qui est le plus important pour nous, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, parce que ça serait une maladie pour nous. Maintenant, le temps de nous séparer est arrivé. De la même manière que tu nous as permis d'arriver ici, accorde-nous encore cette faveur pour que nous puissions rentrer chez nous. S'il y a encore, pendant la semaine des rencontres, que tu puisses nous bénir, que tu puisses toi-même organiser ces rencontres. Nous te faisons confiance et te prions dans le précieux nom insuffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Que Dieu nous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Un petit mot avant de sortir. L'enterrement de mon beau-frère à Kinshasa aura lieu le vendredi. Et le même vendredi, pour ceux qui auront le temps, à partir de 18h, peuvent passer à la maison pour que nous puissions clôturer ensemble ces deuils. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur.